RJB Info, le journal Olivier Zano, bonsoir.
Bonsoir. Multiplier des billets de banque grâce à des procédés chimiques, c'est l'escroquerie dont a été victime un commerçant de la région. L'affaire est traitée depuis ce matin par le tribunal à Moutier. L'arnaque dite Wash Wash est peu connue, pourtant assez répandue. On en parle en ouverture de cette édition. Les hautes écoles imposent le certificat Covid en Suisse. La HEPB June le fera aussi, mais elle attendra le retour des vacances d'automne. Son recteur, Maxime Zuber, nous expliquera pourquoi dans quelques instants. Demain, mardi, journée mondiale d'Alzheimer, nous avons rencontré à cette occasion une auxiliaire de vie qui a accompagné une personne malade à son domicile pendant une année. Vous entendrez son témoignage. Et puis du côté du ciel, les précipitations devraient se résorber dans le courant de la soirée. Temps sec et partiellement étoilé cette nuit. Demain matin, des nuages bas qui devraient aussi se disloquer au fil des heures, avec quelques rayons de soleil au programme. Les températures seront tout juste de saison, 16 à 19 degrés. C'est une affaire d'escroquerie pour le moins originale qui est traitée depuis ce matin par le tribunal régional Jura-Bernois-Seyland à Moutier. Deux ressortissants camerounais comparaissent devant la juge unique Maïli Rufnart. On leur reproche une arnaque de type wash-wash à l'encontre d'un commerçant de la région. Alors le wash-wash, qu'est-ce que c'est? Définition avec Alexandre Michler.
L'opération dite « wash wash » consiste à manipuler les victimes en leur faisant croire à la possibilité de multiplier des billets de banque, tout ça par des procédés chimiques. Dans le cas qui nous intéresse, les arnaqueurs ont présenté des billets blancs, mais qui comprenaient toutes les impressions de sécurité habituelles, c'est-à-dire les filigranes et les numéros. La victime, elle, a fourni de vrais billets de banque, puis les escrocs ont procédé à une pseudo-démonstration avec différents produits colorants et une opération de pressage, un peu comme une décalcomanie. Ils ont évidemment affirmé que la manipulation était légale, qu'il s'agit d'un système de protection contre le vol lors du transport de l'argent entre l'Afrique et l'Europe. Sauf que les vrais billets fournis par la victime ont disparu. On parle tout de même d'une somme qui avoisine les 60 000 francs.
Ce matin, le commerçant victime de l'arnaque a répété avoir honte de s'être fait avoir. C'est aussi pour ça qu'il a insisté sur l'importance de parler de cette affaire afin d'éviter que d'autres ne tombent dans le panneau. Un coup d'œil sur Internet et on remarque que l'escroquerie wash-wash est assez répandue. Un jeu de confiance, d'habile manipulation physique mais aussi psychologique. On retrouve Alexandre Michler.
C'est bien pour cette raison que l'arnaqué avait les propos amers ce matin. Il n'y a vu que du feu. Pire, il a assisté à la principale opération de duplication de billets, entre guillemets. Il faut dire aussi que le tout premier contact avec l'un des prévenus est arrivé à un moment idéal, comme un alignement de planètes. La victime cherchait depuis quelques années à remettre une partie de son affaire et c'est précisément en tant que potentiel repreneur que l'un des escrocs s'est présenté. Le reste n'a été que profession de bonne foi, démonstration, le tout dans la cordialité et bien sûr en délestant le commerçant de son argent. Ce matin, les deux prévenus ont contesté la plupart des faits. L'un d'eux est allé jusqu'à nier sa présence lors de la manipulation des billets. Ils ont aussi rejeté leur responsabilité sur un autre larron qui, lui, court toujours.
L'audience s'est poursuivie cet après-midi avec les plaidoiries. Les deux prévenus doivent donc répondre d'escroquerie, également de blanchiment d'argent pour l'un d'eux. La sentence sera prononcée demain après-midi. Le certificat Covid à la HEPB June, oui, mais pas pour tout de suite. La Haute École Pédagogique Commune à la Berne francophone, au Jura et à Neuchâtel a arrêté sa position. Le certificat Covid sera de rigueur dès le 25 octobre prochain, soit après les vacances d'automne au sein de l'institution qui forme les enseignants. L'intervalle doit permettre aux étudiants qui ne sont pas vaccinés de faire le pas. Le recteur de la HEPB June évoque en détail les raisons qui ont mené à instaurer le certificat Covid, mais avec ce décalage, Maxime Zuber.
Ce qu'il faut rappeler, en fait, c'est que le Conseil fédéral a imposé deux solutions possibles aux hautes écoles. La première, c'est ou bien se limiter à une occupation des deux tiers des locaux, et puis la seconde, c'est d'imposer le certificat Covid immédiatement. La plupart des hautes écoles qui ont des grands effectifs, je pense ici aux universités ou aux écoles polytechniques, n'ont pas la possibilité logistique de se limiter aux deux tiers, raison pour laquelle ces hautes écoles ont imposé immédiatement le certificat Covid. Or, nous, la HEPB June, vu les spécificités de notre haute école et puis surtout les effectifs relativement restreints qui sont les nôtres, on a la possibilité de vivre avec les deux variantes. Donc, notre position a été la suivante, c'était de dire comme on peut se limiter aux deux tiers des locaux, on va donc reporter l'entrée en vigueur, l'instauration de ce pass Covid au 25 octobre, ce qui a pour avantage de laisser le temps à nos étudiants qui ne seraient pas encore vaccinés, eh bien, de prendre leurs dispositions de telle sorte qu'au 25 octobre, on puisse commencer en présentiel avec une très très grande majorité d'étudiants au bénéfice de ce certificat.
Maxime Zuber était au micro de François Comte. À noter que l'HEP Béjune va proposer à ses étudiants de se faire vacciner sur ses sites de Delémont et La Chaux-de-Fonds. Une offre similaire est à l'étude pour le site de Bienne. Demain aura lieu la journée mondiale de l'Alzheimer. À cette occasion, nous sommes partis à la rencontre de Marie Balmer. Cette auxiliaire de vie habite au Bois et durant le confinement, elle a mis sa vie entre parenthèses pour vivre à Malleray avec une personne atteinte de cette maladie. C'est donc chez cette dame que Marie Balmer a passé plus d'une année. Au téléphone d'Alexandre Michler, elle nous explique quelles ont été les difficultés rencontrées durant cette période.
Ce qui est difficile, c'est justement de ne pas avoir un contact de parler, puisqu'elle parlait très très peu. On est quand même désociabilisé. Et puis, ben voilà, il faut quand même mettre en place des choses pour la toilette. Parfois, il y avait des jours où elle ne comprenait pas qu'il fallait passer à la douche, qu'elle n'avait pas envie, donc il faut motiver. Ce qu'il faut, c'est avoir beaucoup, beaucoup de patience, parce qu'on répète souvent la même chose. Il faut avoir aussi beaucoup d'amour, être dans la tendresse, dans la douceur, ne pas crier ou ne pas parler trop fort, ça les angoisse. Pour moi, c'était quand même une situation assez facile par rapport à certaines personnes qui sont proches de malades, où les malades sont plus agressifs, parce qu'en fait, le problème du proche du malade, c'est que le proche prend la place, par exemple, si c'est une dame, elle prend la place du mari qui a toujours tout guidé dans la maison, et c'est madame qui commence de guider, et le malade le prend en grippe. Tandis que moi, comme j'étais une personne de l'extérieur, c'était beaucoup plus facile que si c'était ses enfants ou une personne proche.
À noter que Marie Balmer a reçu le prix coup de cœur de la part des sections d'Alzheimer Berne et Neuchâtel pour son action. Marie Balmer que vous entendrez plus longuement demain dans la matinale pour partager son expérience. La ville de Berne ne tolérera plus les manifestations anti-mesures Covid non autorisées, annonce faite aujourd'hui. Elle tire ainsi les conséquences de l'escalade de violence constatée jeudi lors du rassemblement d'opposants aux mesures devant le palais fédéral. La police cantonale bernoise a reçu l'ordre de ne pas laisser se tenir les manifestations annoncées pour ce jeudi qui n'ont pas été autorisées. Le conseil municipal de Berne a appelé les organisateurs à retirer leurs appels à manifester. Il dit reconnaître le besoin croissant de s'exprimer sur des questions politiques et sociale par le biais de manifestations, mais il estime que les autorités doivent d'abord être consultées. Dans un élan de soutien aux énergies renouvelables en Suisse, le Conseil national a décidé en cette fin d'après-midi de prolonger le régime de la redevance hydraulique jusqu'en 2030. Et cela à une très nette majorité, 150 voix contre 34. Une décision qui peut surprendre quand on sait que ce même Parlement a demandé au Conseil fédéral d'étudier une redevance flexible et mieux calquée sur les prix du marché de l'électricité. Les représentants des cantons alpins ne cachaient pas leur satisfaction, à l'instar du vert valaisan Christophe Cliva.
Il y a évidemment l'intérêt des cantons de montagne de poursuivre ce tarif de la redevance jusqu'en 2030, mais il y a aussi d'autres arguments, notamment la sécurisation de la planification. C'est vrai que les investisseurs, les conditions sont claires jusqu'en 2030. Et puis moi, je dirais aussi qu'un élément qui me paraît important, c'est que l'eau, c'est une ressource naturelle. On a un usage, on en bénéficie, et il faut aussi savoir reconnaître qu'il y a un prix à payer pour cela.
La flexibilité, qui d'ailleurs va revenir dans le débat, puisqu'on a demandé au Conseil fédéral de préparer un projet en ce sens, elle permettrait d'avoir une redevance qui serait bien supérieure, non ?
C'est pas sûr, et je crois qu'en tout cas, du point de vue des cantons alpins, il y a plutôt le risque de se retrouver dans 3 ans à devoir négocier cette nouvelle redevance comme seul objet et pas de pouvoir mettre dans le paquet plus global comme aujourd'hui, avec le risque, en fonction de l'évolution finalement, de pas réussir du tout à obtenir des conditions favorables. Là, je crois que tout le monde y trouve son compte.
Les opposants à la décision de prolonger jusqu'en 2030 l'actuel régime de redevance hydraulique ont-ils voté contre les régions de montagne ? Le libéral radical fribourgeois Jacques Bourgeois.
Non, j'ai pas voté contre les régions de montagne, mais je crois que le Parlement, en 2019, a décidé de demander au Conseil fédéral de mettre en consultation une flexibilisation de la redevance hydraulique. Il est prêt à mettre en consultation cette flexibilisation, et je trouve que lorsque le Parlement mandate le Conseil fédéral d'aller dans un sens, on n'arrête pas le processus au milieu de ce processus. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai voté contre. Maintenant, il faut aussi relativiser, parce que lorsque l'on regarde les prix du marché, si on flexibilisait selon les prix du marché, on serait au-delà des 550 millions actuels. Si les prix restent comme ça ces prochaines années, ça ne va pas gêner de prolonger de 5 ans.
Et le débat sur l'approvisionnement électrique ne fait que commencer au Parlement. Une révision totale de la loi sur l'énergie est annoncée. Les services de streaming comme Netflix, HBO ou Disney+ devront passer à la caisse et consacrer au moins 4% de leurs recettes au cinéma suisse indépendant. Le Parlement a mis sous toit ce lundi le projet du gouvernement concocté pour protéger le secteur avec l'explosion de ces plateformes en ligne. Notez que tous les pays voisins connaissent déjà un système d'investissement ou de taxes. Dès début novembre, il sera à nouveau possible de voyager plus librement vers les États-Unis. Tous les voyageurs en provenance de l'étranger pourront entrer sur le territoire américain, à condition qu'ils soient entièrement vaccinés contre le Covid-19. C'est ce qu'annonce aujourd'hui la Maison-Blanche. Les arrivants devront de plus se faire tester dans les 3 jours avant leur voyage. Washington lève ainsi des restrictions qui pesaient depuis mars 2020. Et puis encore, cet accord à l'amiable de 809 millions de dollars, c'est le montant que Twitter va verser à des actionnaires du groupe qui reprochaient aux dirigeants une communication mensongère sur les résultats du réseau social en 2015. Certains avaient vendu dans la foulée des actions après la hausse du cours. L'accord doit encore être homologué par un juge. Il doit mettre fin à l'action en justice intentée devant un tribunal fédéral californien.
Et à l'écoute d'RJB, il est 18h12.
Sport. Marlène Reusser est vice-championne du monde du contre-la-montre. La cycliste suisse a pris la 2e place des mondiaux qui se déroulaient en Belgique aujourd'hui. Quelques jours après son titre européen, la Bernoise, qui était passée en tête aux 2 temps intermédiaires, a un peu faibli sur la fin des 30,3 km de parcours. Le titre est revenu à la néerlandaise Hélène Van Dijk qui a devancé Marlène Reusser de 10 secondes. La Fédération internationale de football veut consulter ses membres. La FIFA désire organiser une conférence pour aborder le projet controversé de Coupe du Monde organisée tous les 2 ans. C'est une annonce faite aujourd'hui. Ce sommet en ligne devrait ainsi avoir lieu le 30 septembre. Objectif, ouvrir un débat constructif pour faire avancer les choses. Lens jouera au moins 2 matchs à huis clos. La commission de discipline a sanctionné le club de Ligue 1 après les incidents qui sont survenus samedi à la mi-temps du derby de football contre Lille. Cette sanction concernera les matchs contre Strasbourg et Reims. La commission a également décidé la fermeture du parcage de supporters lillois quand le LOSC joue à l'extérieur. Le FC Lugano, lui, connaît son nouvel entraîneur. Mattia Crocci-Torti sera à la tête de la formation tessinoise de Super League de football. À 39 ans, il est officiellement promu entraîneur en chef, lui qui occupait ce poste par intérim. Le binational helvético-italien succède ainsi au brésilien Abel Braga, qui avait été relevé de ses fonctions au début du mois. RJB, 18h13, je vous souhaite une excellente soirée.